Accueillir celle qui s'est pratiquement présentée, le docteur Leïla Khorić, neurologue au service de neuropsychologie dirigé par le professeur Sekaldi au CHU de la Timone. Vous allez nous parler de ces célèbres maladies apparentées. De quoi parle-t-on ? C'est vrai qu'elles sont un petit peu ensevelies sous la maladie d'Alzheimer, mais néanmoins elles représentent un point important.
Merci. Merci pour cette présentation.
Alors, un peu plus près du micro ensuite.
Alors, un peu plus loin. Voilà, ça y est. Alors, donc je remercie les organisateurs et la Fondation Recherche la maladie d'Alzheimer de m'avoir invitée en tant qu'oratrice et puis dans ce lieu vraiment mythique et chargé d'histoire. Alors, on m'a chargée donc de vous parler des maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce que ce sont ces maladies cousines? Alors, c'est vrai qu'on les appelle, alors, quand j'explique aux patients, aux familles, alors, vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer, mais vous avez une maladie cousine. Alors, souvent, alors, qu'est-ce que c'est la cousine? C'est la même famille. Alors, pour commencer, alors, hop, pour revenir, pour commencer sur ce topo, déjà, quelles sont les similarités avec la maladie d'Alzheimer? Parce que s'ils font partie de la même famille, c'est qu'ils ont des points communs. Alors, tout d'abord, malheureusement, ce sont des maladies évolutives, hein, donc qui ont un début insidieux et une évolution progressive, qui vont se manifester initialement par des modifications du fonctionnement cognitif, plus ou moins comportemental, hein, soit donc, du comportement qui est inhabituel ou des troubles cognitifs. Et puis, ces troubles vont évoluer dans le temps et qui vont être à l'origine d'une perte d'autonomie et d'indépendance. Et donc, c'est là où on va basculer du stade du trouble cognitif léger à un trouble cognitif majeur qu'on a anciennement appelé les démences. Alors, c'est vraiment un terme qu'on bannit en fait de notre jargon parce que c'est vraiment un terme qui est très péjoratif. En fait, qu'est-ce que ça veut dire démence? Enfin, c'est maintenant on l'appelle un trouble cognitif majeur. C'est que le trouble cognitif est assez important, qu'il va avoir des conséquences dans la vie quotidienne, notamment au niveau de l'autonomie, dans la vie professionnelle, sociale, familiale. Alors, pourquoi aussi les maladies cousines? Parce que cliniquement, en tout cas au début, elles peuvent ressembler à la maladie d'Alzheimer. On peut les confondre avec la maladie d'Alzheimer. Et dans ce cas, effectivement, le diagnostic différentiel par rapport à la maladie d'Alzheimer va être difficile. Donc, c'est souvent, quand les patients viennent consulter, ben, on va se lancer dans une panoplie d'examens pour permettre d'une part, voir est-ce que c'est... est-ce que ce n'est pas une forme un peu atypique de la maladie d'Alzheimer ou est-ce que c'est la maladie cousine ou éliminer d'autres diagnostics? Donc, on va faire recours à des examens que Dr. Janton a présentés tout à l'heure. Certains, malheureusement, sont encore dans le domaine de recherche, mais en tout cas, l'imagerie morphologique standard, hein, l'IRM, pour voir est-ce qu'il y a une atrophie, quelle est la localisation de cette atrophie qui va nous orienter vers telle ou telle maladie cousine. Ensuite, l'examen biologique pour éliminer d'autres causes. On va faire recours à la ponction lombaire, à l'analyse du liquide céphalo-rachidien, et puis des examens encore plus sophistiqués, comme l'examen d'imagerie nucléaire, avec des traceurs plus ou moins spécifiques de ces maladies. Alors, quand on parle de troubles cognitifs majeurs, anciennement des démences, alors, ce qui est important de savoir, en fait, ça ne présume en aucun cas la cause. Hein, quand on dit que quelqu'un est atteint d'une démence ou de troubles cognitifs majeurs, mais en fait, ça veut absolument dire c'est égal maladie d'Alzheimer. Parce qu'en fait, comme vous pouvez voir sur ces diapositives, il existe plusieurs étiologies. Et parmi ces étiologies, bah, des causes de troubles cognitifs majeurs peuvent être de nature non dégénérative. Hein, donc là, une des causes les plus fréquentes, c'est des troubles cognitifs majeurs d'origine vasculaire. Hein, quelqu'un qui va faire plusieurs AVC, en force de faire ses AVC à répétition, bah, il va développer des troubles cognitifs qui, dans certains cas, peuvent effectivement cliniquement ressembler à la maladie d'Alzheimer, si ce n'est pas l'histoire de la maladie ou si on interroge les patients, les familles, on sait que voilà, le patient a fait plusieurs AVC. Voilà. Ensuite, bon, il y a d'autres causes aussi non dégénératives, bon, que je ne vais pas détailler ici. Je vais surtout orienter mon topo vers les causes dégénératives. Et parmi ces causes dégénératives, il existe, vous avez tout un tas de maladies qui peuvent cliniquement rassembler à la maladie d'Alzheimer. Alors, certaines vont toucher de façon préférentielle le cortex. Vous voyez, c'est cette croûte-là qu'on voit autour du cerveau, c'est les le cortex. D'autres vont plutôt toucher le cortex plus ces régions profondes du cerveau qu'on appelle les noyaux gris et les structures sous-corticales. Et donc, on va pouvoir cliniquement, en fonction des symptômes, dire est-ce que c'est plutôt les maladies corticales, sous-corticales. Et en fait, parmi les maladies corticales qui peuvent vraiment, au début, rassembler à la maladie d'Alzheimer, et pour moi, c'est vraiment la maladie cousine la plus proche, c'est la dégénérescence lobaire frontotemporale, dont je vais vous parler, dire quelques mots. Et puis, parmi les maladies qui vont toucher le cortex et sous-cortex, une autre maladie qui est aussi une cause fréquente des troubles cognitifs majeurs, c'est la maladie à acordolémie diffuse. Donc, il y en a d'autres que je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que sinon, ça dépasserait le temps dédié à cette présentation. Alors, pour ce qui concerne les maladies dégénératives, il existe aussi, ce sont des maladies cousines, il y a des aspects, des points communs. Les points communs, ce sont toutes des protéinopathies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, dans le cerveau, il y a des protéines qui sont au départ des protéines qui ont une configuration, une forme normale. Et puis, sous effet de certains facteurs génétiques ou d'autres facteurs environnementaux, ces protéines vont avoir une conformation anormale. Donc, elles vont être mal repliées, elles vont s'agréger entre elles et vont former des fibrilles. Et ces fibrilles vont avoir tendance à s'accumuler soit à l'intérieur des cellules, ça c'est vu schématique d'un neurone, soit à l'intérieur des noyaux des neurones, soit à l'extérieur, dans la cellule, en dehors des neurones, soit dans les espaces extracellulaires, en dehors des cellules. Et donc tout ça va entraîner un dysfonctionnement au niveau des neurones, déjà au niveau la transmission, la connexion synaptique, la communication, ça va perturber la communication entre les neurones. Et puis, petit à petit, ça va induire un dysfonctionnement et puis une perte progressive des cellules nerveuses. Alors, pour enchaîner dans cette dynamique, donc une des causes, une maladie qui est aussi due à une accumulation anormale d'une protéine, c'est la maladie diffuse à Cordolévy. Alors, la protéine impliquée, j'ai une apraxie la protéine s'appelle alpha-synucléine. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais en tout cas, comme dans la maladie d'Alzheimer, tout à l'heure, on vous a parlé de la protéine tau, la protéine bêta-amyloïde, là, c'est la protéine alpha-synucléine. Cette protéine-là, elle a tendance à s'agréger à l'intérieur des cellules et donc perturber le bon fonctionnement des neurones et des connexions entre les neurones. Alors, c'est la deuxième cause des troubles cognitifs majeurs du sujet âgé. Alors, on peut avoir les deux extrêmes d'âge d'apparition. On peut avoir des patients jeunes, 50 ans. Alors, c'est assez rare, mais des patients plus âgés, généralement, la moyenne d'âge est aux alentours de 75 ans. Donc, c'est une maladie qui va, dans les critères diagnostiques actuels, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est des patients qui peuvent venir consulter initialement soit chez nous dans le cadre d'une consultation de mémoire, soit ils vont aller consulter chez des collègues qui s'occupent plutôt de la maladie de Parkinson, parce que cette maladie peut débuter soit par des symptômes qui ressemblent un petit peu à la maladie de Parkinson. On appelle ça le syndrome parkinsonien, un peu des troubles à marche, une raideur, un petit tremblement, soit au départ par des troubles cognitifs, soit les deux en même temps. Donc parfois, suivant la manière dont la maladie va débuter, soit par les troubles cognitifs, soit par le syndrome parkinsonien, les patients vont consulter dans les différents services Et puis, nous, en tant que cliniciens, quand on voit les patients qui ont des difficultés cognitives, ben on va, en examinant le patient, rechercher est-ce qu'il y a des petits signes un peu discrets du Parkinson qu'on ne peut pas forcément, dont les patients ne se rendent pas compte et qu'on peut voir en examinant le patient. Alors, ce qui est très particulier, en fait, dans cette maladie à Cordes de Lévis, c'est que les troubles pseudo-psychiatriques sont assez fréquents et qui peuvent être être présents assez tôt au cours de l'évolution de la maladie. Alors, notamment, ce qu'on peut retrouver, des hallucinations visuelles où les patients peuvent voir soit leurs proches ou des objets, des animaux, ou parfois tout simplement des illusions visuelles, ou avec un sentiment que les carreaux se déforment ou que les murs se déforment. Ça peut être au départ des sensations assez fugaces, ou tout simplement, parfois les patients nous décrivent une sensation de présence étrangère. Donc, ils disent, j'ai l'impression que toujours il y a quelqu'un, on appelle ça un syndrome de l'ange gardien. Donc, ça peut être un des premiers symptômes qui inaugure les troubles cognitifs. Et puis, après, quand la maladie évolue aussi, on peut avoir d'autres symptômes un peu plus marqués, comme les éléments de délire. Alors, il y a un délire qui est souvent décrit dans cette maladie à Cordes de Lévis, qui s'appelle le délire de Capgras. Alors, c'est un délire de sosie, où les patients sont persuadés que quelqu'un assez proche, alors souvent c'est leur conjoint, ou quelqu'un qui est vraiment dans l'intimité, a pris l'apparence que c'est la personne, mais qui rassemble exactement, comme si c'était le sosie de la personne. Et voilà, vous, monsieur, vous êtes mon mari, vous rassemblez vraiment à mon mari, vous avez exactement la même couleur de cheveux, vous êtes habillé comme lui, mais vous n'êtes pas mon mari. Et donc, ce sentiment d'hypofamiliarité vis-à-vis d'une personne proche peut être assez importante, et ce qui est surtout aussi un des symptômes fréquents dans cette maladie, ce sont des fluctuations. Donc on peut avoir des fluctuations aussi bien au niveau des symptômes comportementaux psychiatriques, mais aussi au niveau des symptômes cognitifs, où il y a des moments dans la journée ou des périodes où les patients vont aller plutôt bien, et puis des périodes où ils sont assez confus, avec un discours incohérent. Voilà, donc ça fait partie aussi des symptômes cliniques. Et puis, des troubles du sommeil. Peut-être Dr. Franqui va en parler, mais on peut avoir aussi un des symptômes précoces, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une phase du sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi ? Parce que normalement, quand on rêve, on doit avoir une atonie musculaire, c'est-à-dire que ne pas bouger pendant qu'on est en train de vivre ses rêves. Mais dans cette maladie-là, il n'y a pas cette atonie qui accompagne les rêves, ce qui fait qu'on peut avoir des agitations nocturnes, et puis des troubles aussi qu'on appelle neurovégétatives de régulation, par exemple de troubles de régulation de la tension artérielle, de la constipation, troubles urinaires, etc. Alors. Voilà, donc ça c'est des symptômes cliniques de la maladie à Cordes de Lévis. Ensuite, la deuxième maladie qui est la deuxième cause des troubles aussi cognitifs et qui rassemble la maladie d'Alzheimer, c'est la dégénérescence lobaire frontotemporale. Alors, c'est une maladie qui a été décrite au 19e siècle par un chercheur qui s'appelle Arnold Peak. Donc, il a décrit initialement un homme de 71 ans qui a débuté des troubles par les troubles du langage. Et puis, une fois que ce monsieur est décédé, il a pu regarder son cerveau, et là, il a identifié une atrophie importante, une perte de substance au niveau des structures temporales et frontales. Et après, on a identifié aussi des agrégats dans les neurones qu'on a appelés les corps de pique. Alors, c'est pour ça, pendant très longtemps, cette dégénérescence lobaire frontotemporale a été similée à la maladie de pique. Maintenant, avec les progrès dans la recherche et surtout à partir des années 2010, on a pu avoir que toutes les dégénérescences frontotemporales ne sont pas les maladies de Pick, et qu'on peut avoir des particularités aussi bien au niveau histologique au niveau microbiologique, au niveau, au niveau biologique, notamment en termes d'agrégats de ces fameuses protéines où toutes les protéines ne sont pas, par exemple, la protéine Tau qu'on avait retrouvée dans la maladie de Pick. Donc il y avait divers syndromes clinico-pathologiques qui sont depuis identifiés. Alors là, contrairement à la maladie à Cordes-Lévy, l'âge de survenue est plus précoce. Hein. Ce sont des maladies qui touchent des personnes plus jeunes et même souvent les personnes qui sont toujours en activité professionnelle parce que la moyenne d'âge, c'est 60-65 ans et même parfois plus précoce. Donc ce qui pose effectivement le problème parce qu'il y en a, il y a beaucoup de patients qui ont aussi encore, par exemple, les enfants qui ne sont pas encore adultes et qu'on voit régulièrement, enfin, les patients qu'on voit régulièrement arriver en consultation avec toutes ces dimensions sociales, familiales. Donc, c'est une maladie qui est plus rare que la maladie à Cordes-Lévy et la maladie, globalement, on est membre à peu près 15 000 patients. En France, et puis effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des différentes protéines, c'est pour ça, hein, c'est une maladie qui reste aujourd'hui encore difficile à diagnostiquer, parce que comme il y a tout un remembrement de ces maladies, il y a des différentes protéines qui sont impliquées, qui s'agrègent et qui sont aujourd'hui difficilement accessibles au diagnostic biologique, notamment par exemple. C'est difficile quand on fait la ponction lombaire, dire est-ce qu'il y a la TDP43, est-ce qu'il y a l'ubiquitine, voilà. Donc contrairement à la maladie d'Alzheimer où les biomarqueurs ont quand même dans le liquide céphalo-rachidien ont beaucoup évolué et aujourd'hui on sait caractériser le profil prototypique d'une maladie d'Alzheimer. Dans cette maladie-là et aussi dans la maladie à Cordes-Lévy aujourd'hui, c'est plus difficile. Et puis, ce qui est aussi assez important, c'est que les facteurs génétiques dans ces dégénérescences lombaires frontotemporales sont très importants parce que, globalement, on retrouve des facteurs génétiques avec une transmission descendante, hein, dans autosomique dominante, dans 30% des cas. Hein, c'est-à-dire que si un parent est porteur du gène, ce gène peut être transmis à la descendance et on retrouve cette transmissibilité dans 30% des cas. Et donc, on a mis en évidence différentes mutations qu'on peut aussi rechercher en cas notamment d'antécédents familiaux. Alors, quelles sont les présentations cliniques ? Les présentations cliniques sont globalement de trois types. Alors, en ce qui concerne la cognition, ce qui est la forme qui est vraiment la plus difficile à gérer et diagnostiquer sont des formes avec des expressions initialement comportementales. Pourquoi ? Parce que au départ, il y a uniquement une modification du comportement. Hein, c'est des patients, même quand on leur fait des tests cognitifs au début, on ne retrouve pas de déficit particulier, mais l'entourage nous dit, ma femme, mon mari, mon parent, il a changé. Il a changé, c'est plus le même. Il est devenu plus familier. On peut retrouver une hyperfamiliarité, une perte de convenance parfois sociale. Quand on est tous à table, quelqu'un qui était très bien élevé, il commence à manger alors que personne n'a commencé. Il voit un enfant il veut prendre sa glace. Donc si l'enfant lui donne pas sa glace, il est pas content. Donc des comportements un peu puérils. Et puis on retrouve aussi des troubles au niveau du comportement alimentaire, parfois avec une hyperphagie, le goût exagéré pour les sucreries, et puis une négligence aussi au niveau de l'hygiène. Donc ça, ce sont des formes comportementales. Et après, il y a des formes qui peuvent débuter aussi par les troubles du langage. On appelle ça une aphasie. Alors deux types d'aphasie, ça c'est des subtilités cliniques, mais soit une aphasie on appelle fluente, où globalement les sujets s'expriment, ils sont fluents, mais ils ont du mal, il y a des troubles à compréhension, donc on appelle ça une perte sémantique, hein, ils ont du mal à comprendre les mots, ou parfois donner un sens à ce qu'ils entendent, à un sens à la représentation de des choses qui identifient. Donc une perte de sens et un trouble du langage. Mais quand on discute avec eux, ils sont assez fluents. Et puis il y a un autre type d'aphasie, ce qu'on appelle aphasie non fluente, où cette fois-ci il y a souvent une réduction du discours qui devient un peu plus stéréotypé, avec souvent des difficultés au niveau de grammaire, de la syntaxe, voilà. Et puis après, il y a aussi des formes qui peuvent être associées à des maladies du motoneurone, à la SLA. Voilà, à la maladie du motoneurone, mais ça, effectivement, dans ces cas-là, on recherche aussi des facteurs génétiques. Alors ça, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est un peu l'exemple d'un cerveau, ça c'est l'IRM, et ce qu'on voit, par exemple, chez ces patients qui ont cette dégénérescence phototemporale, il y a une atrophie. Alors, l'atrophie, on voit ici, ça, c'est par exemple la partie où le cerveau est normal. Vous voyez, on voit les sillons qui sont bien remplis. Et puis là, on a ce qu'on appelle un élargissement du sillon. Et comme la nature a l'horreur du vide, en fait, c'est le liquide céphalo-rachidien qui prend la place du cortex. Donc, on voit, vous voyez, ici, beaucoup plus de noir, c'est-à-dire qu'il y a une atrophie. Par rapport ici, est-ce qu'on voit là aussi, par exemple, lobe temporal gauche par rapport au lobe temporal droit? Alors, quelle est la prise en charge de ces maladies? Parce que c'est bien beau d'écrire la clinique. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire sur ces maladies? Malheureusement, contrairement à la maladie d'Alzheimer, la recherche thérapeutique, en tout cas, pour trouver les médicaments qui peuvent modifier l'histoire naturelle de la maladie, on appelle ça les disease modifiers, qu'est-ce que vous a présenté tout à l'heure, docteur Janton. Malheureusement, on est encore à des stades pré-cliniques. Alors, j'ai regardé hier sur la maladie à Cours de Lévy. Alors, il y a un essai, un stade alors encore pré-clinique sur effectivement. Quelque chose qui va empêcher par exemple l'agrégation de la protéine alpha-synucléine, mais ça reste encore à des stades précliniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore essayé chez les patients. Par contre, ça ne veut pas dire que si on ne traite pas la cause de la maladie, qu'on ne peut pas traiter les symptômes. Et là, il y a certains médicaments et aussi des thérapies non médicamenteuses qui ont vraiment toute leur place dans la prise en charge de ces maladies. Donc, bien sûr, ça nécessite une prise en charge multidisciplinaire qui fait intervenir plusieurs professionnels de santé, les orthophonistes, les ergothérapeutes, psychomotriciens, kinésithérapeutes. Il y a aussi, dans le cadre du plan Alzheimer, des équipes spécialisées qui interviennent directement à domicile pour permettre un maintien d'autonomie. Et puis, ce qui est important, c'est vrai que de continuer tout ce qui est les activités stimulantes. Et puis, quand il y a une baisse d'autonomie aussi, il ne faut pas hésiter à aussi faire appel à des accueils de jour, des structures où on peut aussi s'occuper des patients. Et puis, à tout ce qui est des thérapies médicamenteuses. Alors, ce qui est important, surtout pour la maladie à Cours de Lévy, et ça, c'est vraiment un message important à faire passer, que dans cette maladie, les patients sont extrêmement fragiles, très sensibles aux psychotropes. Donc, il y a certains médicaments qui sont absolument contre-indiqués. Et même parfois, certains généralistes ne savent pas. Comme c'est des patients, je dis, il y a une fluctuation des symptômes, on peut avoir vraiment le fait d'avoir pris un médicament qui est contre-indiqué dans cette maladie. Les patients peuvent passer d'un état où ils n'étaient pas trop mal à un état de somnolence, quasiment de pseudo-coma. Donc ça, c'est très important de faire très attention, surtout ne pas nuire. Donc c'est important. Et puis il y a certains médicaments aussi qui malheureusement, par exemple comme les inhibiteurs d'acétylcholinestérase, qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale, mais qui quand même ont montré des effets, notamment sur les fluctuations attentionnelles et sur les hallucinations. Et puis voilà, tout ce qui est ce qu'on a déjà largement dit, prévention. Très important, prendre en charge aussi tous les facteurs de risque cardiovasculaire et puis agir aussi en amont. Alors, Voilà, donc pour terminer, donc voilà, c'est, ce sont des maladies qui sont évolutives, bon, qui aujourd'hui restent encore sous-diagnostiquées. Et donc, je pense que vraiment, ce qui est important, vraiment un plus grand effort doit être mis aussi bien pour la prise en charge médicale, sociale et puis sur la recherche. Donc, je vous remercie pour votre attention.
Merci infiniment. Merci. Les micros sont à nouveau à votre disposition. Juste une petite question très rapide. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, d'après vous, des patients qui sont diagnostiqués Alzheimer et qui, en réalité, présentent l'un ou l'autre de ces symptômes?
Bien sûr, bien sûr. En fait, on voit souvent des patients avec le diagnostic Alzheimer. Et puis, finalement, quand on creuse sous l'anamnèse, parce que c'est très important aussi d'avoir un regard clinique, hein, même si on utilise beaucoup les examens complémentaires, la clinique et l'examen et l'entretien font beaucoup, hein, parce que le fait de discuter avec les familles, les patients, on comprend déjà sur les modes d'installation, qu'est-ce qui a changé, et il nous arrive de redresser, entre guillemets, beaucoup de diagnostics. Voilà.
Mais est-ce que vous incitez, là il y a du public, c'est relayé, est-ce que vous inciterez les familles ou les proches qui ont un doute, en vous écoutant, à chercher vérification?
Bien sûr, ce qui est important, c'est surtout à des stades débutants. Parce que c'est vrai qu'à des stades un petit peu plus avancés, c'est vrai que ce qui est problématique, c'est que les maladies se rassemblent et là, c'est plus difficile. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut être amené parfois à faire recours à des examens invasifs. Mais au début, où il y a effectivement toute une prise en charge à organiser, c'est important de faire le diagnostic. Mais même si on a... Alors, c'est vrai que parfois, les patients et les familles sont déçus. On dit, voilà, écoutez, c'est pas la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être une maladie cousine, mais on n'a pas la certitude. On va vous suivre, on va voir un petit peu ce qui se passe, on vous revoit dans 6 mois, dans 1 an, et puis on va voir est-ce que ça se confirme, ça se confirme pas. Hein, ça permet aussi d'avoir un suivi et organiser la prise en charge.
Très bien. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas que moi. Oui, bien sûr, madame, on vous passe tout de suite le micro.
Bonjour. J'aimerais connaître les causes de la maladie d'Alzheimer ou autres maladies apparentées, parce qu'on n'en parle pas, et je vois qu'il y a 225 000 cas par an,
nouveaux cas,
chaque année. Et donc, moi, je suis impactée parce que j'ai ma mère qui a
touché.
Je ne sais pas quelle maladie, mais j'ai fait tout ce parcours-là. Je dois reconsulter, mais c'est un long parcours des dents. Mais voilà, ma question, c'est de savoir quelles sont les causes, parce que quand même, on n'en parlait pas autant, et je trouve qu'on est énormément impacté. Et voilà.
Alors, c'est vrai que les causes, en fait, on ne cherche que ce qu'on trouve et on ne trouve ce qu'on connaît. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, autant avant, finalement, on se contentait de dire, voilà, le patient, il a des troubles cognitifs et puis on recherchait pas forcément les causes. Alors, ce que je vous ai dit, au départ, il faut déjà faire tout un tas d'examens pour voir s'il n'y a pas autre chose, hein, s'il n'y a pas un problème vasculaire, infectieux, etc. Et après, quant à la cause elle-même, c'est multifactoriel. Donc, il y a à la base ces protéines, je vous ai montré dans la première diapositive, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, cette protéine qui était bien, qui fonctionnait bien, pourquoi à un moment donné, cette protéine commence à être dysfonctionnelle, elle commence à s'agréger. Alors, il y a des facteurs de risque génétique, hein. Effectivement, si on est porteur de facteurs de susceptibilité, alors, il y a des formes génétiques qu'on connaît qui sont heureusement très rare, mais on peut être porteur de facteurs de risque. Quand on a un parent qui a une maladie d'Alzheimer, on a plus de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer et plus de risques que cette protéine, à un moment donné, lorsqu'elle va rencontrer d'autres facteurs, alors facteurs de l'environnement, hein, ça peut être effectivement la pollution, des facteurs sociaux, le stress, facteurs vasculaires. À un moment donné, en fait, c'est la rencontre entre un terrain et puis un facteur autre.
Bien sûr.
Et ce qui fait que ce qui va faire que la maladie va débuter. Mais je pense que autant pour les facteurs génétiques, ben, on ne peut pas lutter, mais autant on peut essayer d'identifier quels sont ces facteurs environnementaux sur lesquels on peut agir de manière préventive.
Vous avez évoqué le stress, on pense tous à ça. Est-ce que des accidents de la vie, des décès, la perte d'un proche peuvent être des facteurs, je dirais, ou au moins d'accélération des troubles?
Tout à fait. Alors, savoir, est-ce qu'il y a un lien direct entre le stress et les maladies dégénératives? Il y a pas mal d'études, mais il n'y a jamais eu une preuve. Alors, il y a des données épidémiologiques qui montrent une association, mais il n'y a jamais eu d'études qui montrent un effet direct d'un stress sur la survenue de la maladie. Alors, il y a des modèles animaux chez la souris, mais chez l'homme, c'est très difficile à mettre en évidence. Après, tout ce qui est facteur de décompensation, ce qu'on vous disait tout à l'heure, en fait, tout au long de la vie, on se constitue une réserve cognitive. Donc, on a des réseaux, des connexions redondantes qui nous permettent, finalement, lorsque la maladie débute, le fait qu'il y a ces connexions de suppléance, ça nous protège des symptômes pendant très longtemps, jusqu'au moment où il y a un facteur qui vient un peu décompenser tout ça. Et souvent, on retrouve le facteur stress. Alors, ça peut être le stress psychologique, la perte d'un proche, hein, c'est souvent le cas, le deuil, perte du conjoint ou perte d'un être proche, ou ça peut être tout simplement un stress physique, une hospitalisation par exemple pour un problème X, Y, ou un déménagement, hein, on change ses repères, on n'est plus chez soi, stress de déménagement, et d'un coup ce stress va venir en fait décompenser quelque chose qui jusqu'à présent fonctionnait un petit peu à l'état d'équilibre. Il y a une espèce d'équilibre qui s'est établi.
Le déséquilibre.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Je crois qu'on a une question encore, ou dites-moi, ou peut-être, on connaît depuis plus d'un siècle ces maladies. Pourquoi n'a-t-on pas plus évolué sur la recherche? Vous avez mis une phrase très courte, malheureusement, pas de recherche. Pourquoi le corps de Lévis, je crois que c'est près de 200 000 personnes en France, c'est pas anodin. Pourquoi il y a tellement peu de recherche là-dessus?
Je pense que déjà il faut arriver à bien diagnostiquer en fait ces maladies.
Vous voulez dire qu'on a encore des difficultés?
Je pense qu'on a encore des difficultés pour diagnostiquer avec certitude, parce que c'est vrai que là, avec la maladie d'Alzheimer, avec les biomarqueurs, on a une approche biologique de la maladie, et alors que dans la maladie à cours de Lévy, on a souvent une approche indirecte. Alors on commence à avoir un peu ces biomarqueurs, notamment alpha-synucléine, qu'on peut commencer à doser dans l'LCR, mais ça reste encore dans certains centres très spécialisés, et c'est très rare. Donc déjà, si on arrive à mieux les diagnostiquer, je pense que la recherche pourra aussi avancer dans ce sens-là.
Écoutez, merci beaucoup. De toute façon, vous restez parmi nous. On vous applaudit. Oui, merci infiniment.